Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, le nouveau pacte pour les migrations et le droit d'asile présenté hier par la Commission européenne qui défend son équilibre entre responsabilité et solidarité. Mais ce matin, le directeur régional du service jésuite des réfugiés s'interroge sur cette solidarité fragile, voire sélective, que ce pacte promeut. Dans ce journal également, nous parlerons du Yémen. Faute de financement, les organisations humanitaires ont réduit leurs aides aux populations. Pourtant, sur place, la situation de ce pays ravagé par la guerre, les épidémies et la famine se dégrade. La pandémie de Covid bouleverse les habitudes, induit des changements profonds, notamment dans le domaine professionnel. Le télétravail explose avec ses avantages et ses inconvénients. L'Espagne a décidé de réglementer cette pratique, nous le verrons. Et puis gros plan sur le projet de gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie et l'Allemagne. Projet pharaonique et ambitieux mais interrompu en cause les tensions entre Moscou et les chancelleries européennes. La question énergétique au cœur de la diplomatie mondiale, c'est l'objet de notre dossier.
Radio Vatican, le journal, Manuela Figi.
Bonjour à tous. 5 ans après la crise migratoire de 2015 et le rappel brutal qu'a été il y a 2 semaines l'incendie du camp de Moria, la Commission européenne a présenté hier son nouveau pacte pour les migrations et l'asile, une réforme qui essaie de trouver des solutions pragmatiques qui puissent être acceptées tant par l'Italie ou la Grèce que par les pays de l'Est, plutôt rétifs à une répartition des migrants au sein de l'UE. Alors parmi les mesures clés, des contrôles accrus aux frontières extérieures de l'Union, une accélération des procédures de demande d'asile et un durcissement sur les renvois des migrants irréguliers. Je vous propose d'écouter la réaction à ce nouveau pacte du père José Ignacio Garcia. Il est le directeur régional du service jésuite des réfugiés.
La Commission européenne a présenté et le pacte sur 2 principes, la solidarité et la responsabilité. Ce sont des principes que nous, comme croyants, comme catholiques, nous partageons à fond. Mais c'est vrai qu'en écoutant la présentation de ces documents, on garde le sentiment qu'on peut parler d'une solidarité à choix ou une solidarité fragile, aussi guidée par un principe de « pas chez moi ». Les migrants peuvent venir en Europe, mais pas dans notre pays. Alors ça, c'est difficile à accepter et à comprendre. Je pense que les documents cherchent un accord, ça c'est bien, on l'apprécie, mais est-ce qu'on peut accepter un accord à tout prix? Ça c'est plus difficile à accepter. Je pense qu'il a eu un bel appel moral à la responsabilité et à la solidarité, mais je pense qu'il faut entrer dans le concept de solidarité, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On ne cherche pas une solidarité facile, on cherche la solidarité qui répond aux besoins de ceux qui viennent. Ce sont les besoins de protection, dans le cas de l'asile, ce sont les besoins d'un développement personnel et familial dans le cas des migrants. C'est ça la solidarité qu'on doit chercher et que nous espérons de l'Europe.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la péninsule de Corée. Après quelques semaines d'accalmie, les tensions entre les deux frères ennemis se ravivent. On apprend ce matin que les forces nord-coréennes ont abattu un sud-coréen qui avait fait défection dans les eaux territoriales de Pyongyang avant de brûler son corps par crainte d'une contamination au coronavirus. Séoul dénonce ce matin un acte scandaleux. Nuit d'émeute au Bélarus après que ce mercredi, Alexandre Loukachenko a pris tout le monde de court en organisant par surprise sa cérémonie d'investiture. La nouvelle a jeté de l'huile sur le feu et déclenché des manifestations violemment réprimées. La correspondance depuis Moscou de Jean Cassé.
Des manifestations tournant à l'émeute et se prolongeant pendant la nuit, des arrestations massives et des rapports de brutalité policière. La nuit dernière au Bélarus a rappelé les tout premiers jours du mouvement de protestation en août dernier. Plusieurs nuits d'affrontements parfois très violents, des dizaines de cas de torture en prison, 2 morts, avant que la tension ne retombe alors peu à peu. À l'époque, c'était l'annonce des résultats à l'élection présidentielle, des résultats manifestement truqués qui donnaient Loukachenko vainqueur au premier tour avec 80% des voix qui avaient déclenché la colère des Bélarusses. Même cause, mêmes effets. Hier, c'est sa cérémonie d'investiture organisée en catimini qui a été ressentie par la population comme un insupportable crachat au visage. Aussitôt la nouvelle connue, les manifestants sont sortis dans les rues de Minsk, accueillis par un important dispositif policier. Charges de police, canons à eau, gaz lacrymogène, plusieurs centaines d'arrestations, le bilan est très lourd. Surtout, il est possible que le scénario se répète dans les prochains jours. Les chefs de l'opposition ont appelé à la désobéissance civile. Alors que le mouvement de protestation semblait s'enliser, le mépris affiché de Loukachenko pour son propre peuple a remis le feu aux poudres. Jean Cassé, Moscou, pour Radio Vatican.
Et l'Union européenne refuse de reconnaître Loukachenko comme président du Bélarus, malgré cette prestation de serment pointant les résultats falsifiés de l'élection du 9 août et son manque total de toute légitimité démocratique. L'Assemblée générale des Nations unies suit son cours, peu ordinaire, avec l'annonce d'un sommet sur le climat le 12 décembre, jour du 5e anniversaire de l'accord international de Paris. Il rassemblera les dirigeants mondiaux les plus ambitieux sur la question climatique, affirme un communiqué. L'événement sera organisé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le premier ministre britannique, Boris Johnson. Hier, plusieurs chefs d'État de pays arabes se sont succédés à la tribune virtuelle de l'Assemblée générale, exprimant leur crainte de voir le Moyen-Orient déchiré par un nouveau conflit autour de l'Iran. Le président irakien dit ainsi refuser que son pays devienne un terrain de jeu pour des forces étrangères. Les agences des Nations unies dans l'incapacité de secourir, comme elles le souhaiteraient, la population du Yémen. Ces derniers mois, elles ont été contraintes de supprimer les services de santé dans plus de 300 établissements et de réduire les distributions de nourriture en l'absence de financement de la part de la communauté internationale. Or, la situation sur place se dégrade, c'est ce que nous explique Tiffaine Walton, porte-parole du Programme alimentaire mondial à Paris.
Malheureusement, l'insécurité alimentaire aiguë au Yémen n'est pas une nouvelle problématique. On a beaucoup travaillé ces dernières années pour faire en sorte que des millions de personnes qui étaient au bord de la famine finalement reviennent un petit peu de ce bord du gouffre, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens dont la survie ne tient qu'à un fil, et ce fil, c'est vraiment l'aide humanitaire. On était dans une situation en 2018 qui était déjà très grave. On avait déjà tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Aujourd'hui, on retire la sonnette d'alarme une nouvelle fois, puisque on est dans une situation très critique économiquement parlant. On a une intensification des conflits. On a près de 40 lignes de front désormais, et puis un coût des denrées alimentaires de base qui est à son point le plus élevé. Une monnaie qui a perdu 25% de sa valeur rien qu'en 2020, soit 70% par rapport à sa valeur d'avant-guerre, et une réserve de devises étrangères qui s'amenuise. Donc une crise économique, une intensification des conflits, et par-dessus le Covid-19 qui vient amplifier, on va dire, les difficultés, puisque les équipements sanitaires, malheureusement, au Yémen, ne sont pas en mesure de traiter et de prendre en charge tous les malades aussi du Covid-19.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, le président libanais a admis que son pays se débattait dans une crise sans précédent et que la situation était ingérable. Michel Aoun a rappelé toutefois l'engagement du pays du Cèdre à mettre en œuvre des réformes structurelles, un engagement que la France est déterminée à lui faire tenir. Hier, le ministre français des Affaires étrangères a appelé les partenaires du Liban à exercer des pressions fortes et convergentes pour que Beyrouth tienne ses promesses. 5 millions de cas de Covid en Europe et après le Royaume-Uni, c'est au tour de la France de donner un tour de vis aux mesures de restriction. La métropole d'Aix-Marseille et l'île de la Guadeloupe dans les Antilles sont classées en zone d'alerte maximale. Conséquence, les bars et restaurants ferment totalement à partir de samedi. Des mesures qui ne passent pas auprès des autorités locales marseillaises qui affirment ne pas avoir été consultées au préalable. Ces restrictions sont jugées inadaptées et mortifères pour l'économie du territoire. La fermeture des lieux de travail, les restrictions de déplacement, autant de dispositions qui favorisent le télétravail. La pratique s'est largement développée avec la pandémie. Eh bien, l'Espagne veut la réglementer pour éviter les abus nombreux de la part des employeurs et lui donner un cadre légal. À Barcelone, Luis Marsans.
Covid oblige, l'Espagne adapte à la hâte sa législation et régule le télétravail. Le nouveau texte de loi prévoit que les entreprises prennent en charge les frais d'équipement, les outils et les consommations liées au déroulement de l'activité à distance, factures d'électricité, internet, téléphone, équipements informatiques ou encore chaises ergonomiques pourront ainsi être prises en charge. Le contrôle par les entreprises du respect des obligations des salariés devra tenir compte de leurs droits à leur vie privée et à la déconnexion numérique. Peu répandu en Espagne avant la pandémie de Covid, le télétravail est désormais pratiqué par 20 à 30% des salariés. Il est fortement recommandé par les autorités. Cela nous place à l'avant-garde des législations européennes, explique la ministre du Travail après la présentation du projet de loi. Ces droits s'appliqueront aux salariés travaillant chez eux au moins 30% du temps, soit un jour et demi par semaine pendant au moins 3 mois. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
En RDC, la Caritas rapporte le décès d'une dizaine de personnes début septembre dans la région du Kassai. Au moins 924 maisons ont été incendiées lors de 3 jours d'affrontements communautaires pour des terres cultivables. 10 000 personnes auraient fui dans la brousse. Des humanitaires prévoient de se rendre sur place aujourd'hui. Le soulèvement au Bélarus, les rebondissements dans l'affaire Navalny, l'actualité tend chaque jour un peu plus les relations entre les chancelleries européennes et Moscou, à tel point que le projet de gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique, est remis en cause. Pourtant, amorcé dans les années 90, il est sur le point d'être achevé. Il est réalisé avec l'aval de Berlin, pays récepteur du gazoduc. Or, la chancelière allemande fait aujourd'hui volte-face et menace d'interrompre le chantier quasi abouti. Il faut dire que les pressions américaines et bruxelloises sont intenses. Alors, comment ce grand projet industriel est devenu un enjeu d'influence majeure entre Washington, Berlin et Moscou? C'est ce qu'on découvre tout de suite avec Francis Perrin, spécialiste des questions énergétiques à l'IRIS.
Le projet est menacé par les pressions américaines sur ses alliés européens et sur les entreprises engagées dans ce projet. Et il est également menacé par l'évolution récente des relations entre l'Union européenne et la Russie, un durcissement avec ce que l'on appelle l'affaire Navalny. Ces pressions américaines qui vont s'intensifier mettent les dirigeants allemands dans une situation délicate. Pendant des années, les dirigeants allemands ont dit à propos du projet de gazoduc, c'est un projet commercial, sous-entendu géré par des entreprises dans lesquelles l'État allemand n'est pas directement concerné et par conséquent, nous n'avons pas à nous prononcer sur ce projet. Tout grand projet énergétique a aussi un aspect politique que les dirigeants allemands ont sous-estimé volontairement pendant quelques années. Donc, au sein même de la classe politique allemande, de nombreuses voix s'élèvent pour dire, en termes de sanctions par rapport à la Russie, l'une des plus fortes, ce serait d'arrêter Nord Stream 2. La décision n'a pas été prise par la chancelière allemande, mais clairement, le sujet est sur la table, comme il ne l'a jamais été depuis le début de ce projet gazier très controversé qui relie la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique et qui devrait transporter, s'il est achevé, 55 milliards de mètres cubes de gaz par an vers le marché allemand.
Comment s'exerce cette ingérence américaine dans le projet de gazoduc?
Les pressions américaines ont débuté bien avant l'empoisonnement de M. Navalny. Elles remontent au minimum de façon très active à la fin 2019, où le Congrès américain avait adopté des dispositions qui avaient d'ailleurs conduit une société basée en Suisse et chargée de poser le gazoduc sous-marin, d'arrêter de contribuer à ce projet, au-delà de ce qui s'est passé autour du principal opposant au président russe Vladimir Poutine. Du point de vue des Américains, il y a des aspects stratégiques. Et il y a un autre projet de gazoduc russe qui est le Turk Stream ou Turkish Stream, Russie, mer Noire, Turquie. Dans les deux cas, ces projets sont vus par l'administration Trump comme des projets dangereux parce qu'ils feront en sorte que l'Union européenne, qui importe déjà pas mal de gaz de la part de la Russie est le principal fournisseur de gaz de l'Union européenne, ce qui, du point de vue de Washington, accroîtrait la capacité d'influence de Moscou sur l'Union européenne.
On le voit, Berlin joue gros. Quelles seraient les conséquences politiques, économiques en cas d'arrêt du gazoduc?
Arrêter un projet quand il est au début, c'est une chose, mais prendre la décision qui n'a pas été prise au moment où nous parlons, d'arrêter un projet qui est quasiment achevé, à environ 90%, un petit peu plus, là, ce serait évidemment énorme, car les compagnies impliquées dans ce projet, à commencer par le géant mondial du gaz, le groupe russe Gazprom, il y aurait bien sûr des demandes d'indemnisation, des actions en justice, on serait parti pour un long imbroglio juridico, politico, économico et financier. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants allemands hésitent beaucoup, et certainement Nord Stream 2 est objectivement l'un des moyens les plus forts d'envoyer un message fort à Moscou et au Kremlin au plus haut niveau. Mais ce serait très lourd de conséquences. Bien malin, qui pourrait dire ce qu'ils vont décider à terme? Le temps presse. Oui, non, peut-être, report, annulation, continuation, achèvement du projet dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et la grande question, c'est est-ce que l'Allemagne va saisir l'occasion Navalny pour résoudre cette contradiction ou est-ce qu'elle va se sentir trop engagée et décider qu'elle ne peut pas interrompre ou suspendre ce projet à ce stade quasiment final de Nord Stream 2.
Interrogé par Delphine Allaire, Francis Perrin, spécialiste des questions énergétiques à l'IRIS, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain retour de l'actualité vaticane et internationale à 13h heure de Rome. Comme d'habitude, passez d'ici là une excellente matinée.